Tout au long du règne de Charles II, le Don Quichotte de Cervantes connaît en France un succès presque continu. Durant l'ensemble de cette période, le fier Hidalgo et son écuyer sont extrêmement célèbres et le roman cervantin est globalement très apprécié outre-Pyrénées, comme en attestent plusieurs adaptations théâtrales, des imitations ou encore les multiples jugements, élogieux pour la plupart, que l'on recense à son propos. Au sein de ce vaste ensemble, j'ai choisi de privilégier trois textes relativement méconnus, mais dont la combinaison a contribué à modifier sensiblement, me semble-t-il, la perception que les lecteurs français avaient du roman de Cervantes au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le premier de ces textes est la nouvelle traduction de Don Quichotte en quatre volumes par François Fillot de Saint-Martin, qui paraît en 1677-1678. Le second texte qui retiendra mon attention est la première continuation française du roman de Cervantes par Saint-Martin lui-même, le traducteur devenu continuateur, et qui paraît en 1695. Enfin, le troisième et dernier ouvrage auquel je m'intéresserai est une deuxième continuation qui prolonge et achève la précédente, mais qui est due cette fois à Robert Schall. Cette dernière est achevée dès 1702, mais ne sera finalement publiée qu'en 1713. Ces trois œuvres, qui n'ont jamais véritablement été étudiées comme un tout ayant sa propre cohérence, constituent pourtant ce que l'on pourrait appeler un premier cycle quichotesque français, dans la mesure où la traduction débouche sur un prolongement romanesque impliquant plusieurs auteurs qui parachèvent la francisation de la matière cervantine amorcée par le traducteur. Ces œuvres brouillent ainsi les limites entre ce qui d'une part revient à Cervantes et de l'autre ce qui est dû à son traducteur et à ses continuateurs. Et ce, d'autant plus qu'elles seront rééditées ensemble en 6 volumes, à de multiples reprises tout au long du XVIIIe siècle, parfois sous un nom unique d'auteur, celui de Cervantes, auquel sont attribuées dans certaines éditions les 2 continuations allographes. Quelles inflexions majeures subit l'œuvre de Cervantes dans ce travail hybride qui mêle traduction, réécriture et création? Par quel mécanisme s'opère la transformation de l'œuvre initiale? Et quel rôle joue le processus d'écriture collective dans cette évolution? Enfin, peut-on établir un lien entre le déclin relatif de l'Espagne sous Charles II et l'appropriation très libre, parfois teintée de condescendance, dont fait l'objet en France une œuvre emblématique de la littérature espagnole? Ou bien ce phénomène est-il dû à d'autres facteurs? Première partie, Fillot de Saint-Martin, traducteur, ou les enjeux d'une traduction désinvolte. Alors que César Oudin, et dans une moindre mesure François de Rosset, s'étaient montrés extrêmement scrupuleux dans leurs traductions respectives de la première et de la seconde partie du roman de Cervantes, en 1614 et 1618, Fillot de Saint-Martin revendique d'emblée le droit de transformer l'original pour l'accommoder au génie et au goût des Français, c'est-à-dire dans son esprit, pour y apporter un certain nombre d'améliorations. C'est ce qu'il explique assez longuement dans un texte intitulé « Avertissement » et situé dans le paratexte du premier volume de sa traduction. J'en ai mis un extrait, citation numéro 1 de l'exemplier. S'il y reconnaît bien l'applaudissement général avec lequel l'œuvre cervantine a été reçue, il n'en est pas moins nécessaire, selon lui, de l'amender. Car, comme cela est bien connu, écrit-il, les auteurs espagnols moralisent en toute rencontre et ne font même pas scrupule de mêler les maximes les plus saintes avec des bouffonneries que toutefois il n'a pas osé supprimer entièrement. Le respect et la modestie dont Oudin faisait preuve ont donc été supplantés dans cette nouvelle traduction par un ton beaucoup plus libre, voire un état d'esprit un peu désinvolte, qui explique sans doute que le nouveau traducteur n'est pas jugé indispensable de traduire des pièces aussi importantes pour nous que la dédicace ou même le prologue de Cervantes. Fillot de Saint-Martin peut revendiquer à bon droit d'être le premier à avoir traduit l'intégralité du Don Quichotte en français et à avoir offert par conséquent aux lecteurs de son temps une traduction homogène. Mais la principale caractéristique de son travail est surtout qu'il est extrêmement libre, comme le montre d'emblée la façon dont il traduit la première phrase du roman. Pour en prendre la mesure, on peut se reporter à l'exemplier où apparaissent successivement la première phrase du texte en espagnol, suivie des traductions respectives de Oudin et de Fillot, citations 2, 3 et 4. La traduction de cette phrase inaugurale est à l'image de l'ensemble de son travail, que sur Enescu, n'hésite pas à classer dans la catégorie des belles infidèles. Fillot n'hésite pas à faire des ajouts ou bien à abréger en supprimant ce qu'il considère comme des répétitions ou des digressions inutiles du narrateur. En résumé, il est ce que les traductologues appellent un cibliste. Il ne cherche pas à faire de la couleur locale, mais traduit au contraire de telle sorte que le texte ait toujours l'air d'avoir été directement pensé et rédigé en français. Mais les libertés qu'il prend avec l'œuvre originale supposent aussi de sa part l'intention de s'ériger en rival de Cervantes. Et c'est là l'un des enjeux de cette traduction. En effet, arrivé à la fin du roman, un nouveau palier est franchi lorsque Fillot de Saint-Martin décide de transformer le dénouement. Pour ce faire, le traducteur fusionne les chapitres 73 et 74 du Quichotte de 1615. En réalité, il ne conserve que quelques bribes du 74, sur lequel il greffe de façon assez abrupte un court épilogue, citation numéro 5. Ils eurent beau dire tous, Don Quichotte n'en fut ni moins rêveur ni moins malade, mais il guérit enfin et retourna dans son bon sens, jusqu'à être consulté et admiré de tous ses voisins, si bien qu'on eût dit qu'il n'était devenu fou que pour faire voir que les livres de chevalerie sont de pures impertinences et combien il est dangereux de s'attacher à les lire. Il n'y a donc plus dans ce dernier chapitre ni véritable reniement des romans de chevalerie de la part du héros, ni confession, ni testament. Par une sorte de coup de théâtre, le traducteur ressuscite Don Quichotte et neutralise les éléments qui permettaient de clôturer définitivement le texte, y compris l'existence d'Alonso Quijano, ce qui non seulement altère considérablement le sens de l'œuvre originale, mais ouvre potentiellement la voie à de nouvelles aventures. Deuxième partie, 1695, la continuation inachevée de Fillot de Saint-Martin ou l'impossible quête chevaleresque de Sancho Panza. Malgré ce remodelage, qui prépare le terrain à un prolongement romanesque, la continuation de Fillot de Saint-Martin ne paraît pas tout de suite. Cette dernière n'est mise en vente qu'en 1695, à la faveur d'une réédition de sa traduction, qui comporte désormais 5 volumes, 4 pour la traduction et un 5e pour la continuation. Ce tome 5 est construit autour d'une idée qui n'existait qu'à l'état latent chez Cervantes. Le roman de Saint-Martin raconte en effet les aventures et mésaventures d'un Sancho fait chevalier. L'écuyer est amené à pasticher de la sorte quelques-unes des plus célèbres aventures de Don Quichotte. Son premier exploit consiste à tuer un porc par accident en veillant ses armes. Il combat ensuite une autruche avant d'être soigné dans une hôtellerie, affronte avec succès des bandits dans une forge qui s'apparente à une bouche de l'enfer et rencontre finalement un enchanteur nommé Parafaragaramus, non sans s'être auparavant arrêté avec son maître dans un château où les deux compagnons sont victimes de plusieurs mystifications. Tout au long de ce tome 5, Sancho imite Don Quichotte et est encouragé par lui, tandis que Fillot, pour sa part, pastiche maints épisodes de Cervantes, de telle sorte qu'il existe une curieuse analogie entre l'apprenti chevalier, traité d'ailleurs avec une relative bienveillance, et le continuateur. L'œuvre s'apparente plus à un exercice d'imitation procédant par variation, plutôt qu'à une continuation exploitant des pistes réellement inédites. Cependant, le déplacement partiel du centre de gravité de l'œuvre vers Sancho permet au continuateur d'introduire progressivement des écarts, voire quelques innovations. La création de l'enchanteur Parafaragaramus, auquel Sancho est confronté dans l'un des derniers chapitres, en est sans doute l'un des meilleurs exemples. Je vous ai mis un bref portrait de Parafaragaramus à la citation numéro 6. Il s'agit d'une sorte de personnage hybride qui rappelle à la fois le chevalier au miroir et surtout son écuyer, mais aussi certains domestiques du duc et de la duchesse. En plus du rôle nouveau qu'il attribue à Sancho, Fillot de Saint-Martin introduit un certain nombre de nouveautés. Il place tout d'abord les protagonistes dans une situation de réussite relative. Même s'ils continuent naturellement à essuyer des échecs, ils connaissent aussi un certain nombre de succès, fussent-ils souvent dérisoires. Ils parviennent tout de même à sauver la vie de la comtesse Eugénie et celle de son mari, deux aristocrates qui les accueillent ensuite dans leur palais. S'ils ne peuvent s'empêcher de rire aux dépens du maître et de l'écuyer, ces nouveaux mystificateurs ont toutefois une dette envers les protagonistes, ce qui introduit une nuance nouvelle. Il leur faut concilier reconnaissance et envie de se divertir, de telle sorte que le héros de la Manche et son écuyer sont gentiment moqués, mais jamais humiliés, car trop les rabaisser apparaîtrait sans doute comme de l'ingratitude. Pour ce qui est des instances narratives, Benengeli est remplacé dans le tome 5 par un certain Zulema, dont il est indiqué qu'il a adopté le nom d'Enriquez de la Torre comme nom de baptême. C'est donc techniquement un morisque. À la différence du pseudo-historien arabe Cervantin, Zulema est un narrateur bien informé et présenté comme fiable. Mais le continuateur semble faiblement intéressé par le jeu sur les instances narratives et ce procédé s'avère rapidement n'être qu'une imitation de pure forme du dispositif imaginé par Cervantes. En revanche, Saint-Martin a été beaucoup plus sensible au charme des récits intercalés qui sont disséminés tout au long de sa continuation. Le plus élaboré d'entre eux est celui de Saint-Ville et Sylvie, dont le dénouement reste en suspens à la fin du tome 5. Au-delà de son intérêt intrinsèque, la richesse des caractères et le raffinement de sa construction, ce récit a une fonction toute particulière. Il permet au continuateur d'aller beaucoup plus loin dans la francisation de la matière cervantine, qui n'est plus seulement linguistique, mais affecte désormais l'intrigue d'un récit enchâssé et, par son truchement, l'histoire principale elle-même. À la fin du tome 5, en effet, Sancho et Parafaragaramus, qui s'apprêtent à partager un pacifique banquet champêtre, sont interrompus par le bruit d'une échauffourée. Ils s'aperçoivent avec stupeur qu'une troupe de voleurs cachée dans les bois vient d'agresser des voyageurs français qui s'étaient secrètement introduits en Castille. Ils les suivent jusqu'à l'auberge la plus proche et y écoutent leur histoire sans être vus, mais le tome 5 s'interrompt brutalement au milieu de la nouvelle qui relate les mésaventures de Saint-Ville et Sylvie, avant que n'aient été clairement démêlées les raisons de leur présence en Espagne. Troisième partie, la reprise en main de la matière romanesque par Robert Schall, élévation de Don Quichotte et abaissement de Sancho. Cependant, avant que cette rencontre entre les protagonistes et les héros de la nouvelle ne devienne effective, le libraire Claude Barbin, qui selon toute vraisemblance était le commanditaire du tome 5, va devoir résoudre un épineux problème. Fio de Saint-Martin en effet était mort en 1694 sans avoir eu le temps d'achever ce projet romanesque, qui, au vu de la façon abrupte dont le tome 5 se termine, devait comporter au moins 2 volumes. Le libraire parisien, qui est à la recherche d'un remplaçant, fait appel à Robert Schall, le futur auteur des Illustres françaises, qui n'en est alors qu'à ses débuts d'écrivain. Mais les deux continuateurs n'ont ni les mêmes goûts, ni tout à fait la même lecture du roman de Cervantes, d'autant plus que Schall, semble-t-il, ne lit pas couramment l'espagnol et travaille essentiellement à partir des traductions existantes. Il s'ensuivra une tension, tout au long du tome 6 et dernier de la série, entre deux impératifs contradictoires. D'une part, continuer Cervantes et Fio de Saint-Martin, et d'autre part, orienter les aventures des héros cervantins dans une direction plus conforme à sa propre sensibilité romanesque. La façon dont le second continuateur s'approprie le jeu sur les différents narrateurs montre d'emblée sa volonté de prendre ses distances avec ses deux prédécesseurs. Dans un chapitre de transition entre les deux continuations, le chapitre 33, le narrateur schallien s'empresse en effet d'annoncer la mort de Zulema, alias Enriquez de la Torre, c'est-à-dire le double fictionnel de Saint-Martin, qui est remplacé par un certain Cid Ruy Gómez, qui décède à son tour en laissant le texte inachevé. Le manuscrit incomplet passe ainsi de main en main jusqu'à être récupéré fortuitement par un Français qui s'était rendu à la cour de Philippe V et qui le rachète à un valet espagnol. Si ce procédé renoue d'une certaine façon avec le flottement ironique cervantin sur l'identité du narrateur, la mise en scène des morts successives des différents auteurs permet aussi à Schall de franciser un peu plus encore la matière cervantine et surtout d'avoir les mains libres pour orienter le récit à sa guise. Assez rapidement, 2 intrigues différentes se mettent en place au niveau de la narration principale. D'abord, une expédition à laquelle Don Quichotte et Sancho prennent part est organisée sous la houlette de plusieurs nobles pour purger la forêt des brigands qui l'avaient investie, ce qui permet au chevalier errant de s'illustrer par sa bravoure. Schall imagine ensuite plusieurs mystifications ingénieuses qui ont pour point d'aboutissement le désenchantement supposé de Dulcinée, qui, contre toute attente, accepte de se joindre au mystificateur. Cette dernière est finalement désenchantée au terme d'une nouvelle exploration de la caverne de Montesinos, assortie pour Sancho de nouvelles pénitences burlesques. À la fin de l'œuvre, la dame de Don Quichotte feint de se retirer au couvent, au grand regret de son chevalier, qui se résigne à rentrer chez lui en compagnie de Sancho, mais il meurt peu après d'une pleurésie. Le traitement que Charles réserve à chacun des personnages principaux est strictement inverse de celui opéré par Saint-Martin. Don Quichotte repasse au premier plan et est revalorisé. À plusieurs reprises, les nobles insistent sur le fait qu'en dépit de sa folie, il est honnête homme et même courageux. À ce titre, il mérite un certain respect. A contrario, Sancho subit un traitement de plus en plus dégradant et n'est considéré que comme un vulgaire paysan méritant le mépris. Alors que chez Saint-Martin, Sancho pouvait apparaître allégoriquement comme une sorte de double du continuateur, qui cherchait à émuler le maître, chez Charles, ce sont plutôt les nobles, véritables démiurges, qui semblent être des alter-ego de l'auteur, comme on peut le voir aux citations 8 et 9. Charles pratique une surenchère progressive dans la dégradation du paysan promu autrefois chevalier par Saint-Martin. Après qu'il a été défiguré par un fusil suite à une maladresse, on lui urine sur le visage pour désinfecter la plaie. Dans les chapitres finaux, c'est toute la famille Panza qui est tournée en dérision lors d'une visite de Thérèse et Sanchette au palais. Disons-le franchement, le Sancho de Charles est plus proche à bien des égards de l'écuyer d'Avellaneda que de celui de Cervantes. Toutefois, de façon assez paradoxale, Sancho n'est pas toujours cantonné à un rôle de marionnette et de bouc émissaire. Il se lance parfois dans de longues tirades anticléricales et particulièrement anti-monastiques, où l'auteur semble profiter du fait que l'autorité du personnage est a priori totalement sapée pour proférer des diatribes d'une rare violence. Parallèlement, Charles revalorise Don Quichotte et semble parfois avoir une forme de sympathie pour son idéalisme, notamment lorsqu'il s'en prend au dysfonctionnement de la machine judiciaire. Au chapitre 57, l'auteur prête à Don Quichotte un discours contre la vénalité des charges, la corruption, l'arbitraire de la justice, ou encore l'exploitation des miséreux. Je vous ai mis un extrait qui correspond à la citation numéro 9. Selon Jacques Cormier, éditeur de la continuation de Charles, « Par moments, on croirait entendre, avant la lettre, des fragments du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. » Quoi qu'il en soit, on est aux antipodes ici du Don Quichotte fanfaron, cette sorte de matamore ou de caricature de l'orgueil espagnol que l'on trouvait dans certaines des adaptations portées à la scène par Guérin de Bouscal dans la première moitié du XVIIe siècle. Enfin, Charles accorde un très grand soin à l'enchâssement des récits secondaires, qui sont plus encore que chez Saint-Martin, un moyen privilégié de franciser la matière cervantine. En effet, à la différence de ce qui se produit dans le tome 5, où certaines histoires avaient encore un cadre espagnol, les nouvelles chaliennes se déroulent presque toutes en France, de l'histoire de Sautin, le jaloux trompé, à celle de Justin, le mari prudent, en passant par l'histoire centrale dans le roman de Saint-Ville et Sylvie. Le continuateur parvient en outre à entrecroiser habilement, par divers artifices, narration principale et récits intercalaires, de telle sorte qu'il existe plusieurs points de contact entre les deux mondes. Ces récits enchâssés sont un moyen efficace pour introduire dans le récit cadre des nobles français qui interagissent avec Don Quichotte dans l'auberge, puis le palais de divers aristocrates espagnols. À titre d'exemple, on peut notamment citer une controverse sur les différentes manières d'aimer des Français et des Espagnols, chapitres 51 et 33, qui se résout évidemment avec l'assentiment de Don Quichotte en faveur des Français. Je conclus cette brève présentation. La réception de Don Quichotte en France, durant le long règne de Charles II, et encore à l'aube du règne de Philippe V, reste essentiellement comique. Mais ce comique est sans doute moins homogène que durant la première moitié du XVIIe siècle. Si les écrivains français continuent à rire, avec ou sans cruauté, de la folie de Don Quichotte et de la naïveté de Sancho, il leur arrive aussi de manifester à leur égard une certaine sympathie. C'est notamment le cas de Fillo vis-à-vis de Sancho, à moins qu'il ne préfère accuser le contraste entre les deux compagnons et en élever un, tandis qu'il rabaisse l'autre, option retenue par Charles. Quoi qu'il en soit, par-delà le traitement très différent que les deux continuateurs réservent à Sancho et qui atteste de la pluralité des lectures possibles du personnage, ils s'accordent l'un et l'autre pour reconnaître à Don Quichotte un certain mérite. Les aristocrates qui se divertissent à ses dépens lui reconnaissent parallèlement certaines qualités. Et Charles place même dans la bouche du chevalier une dénonciation virulente des injustices de son époque, de façon beaucoup plus frontale que ne le faisait Cervantes dans le fameux discours sur l'âge d'or. Saint-Martin et Chasles auraient-ils posé ainsi un premier jalon vers ce qu'il est convenu d'appeler la lecture romantique de l'œuvre qui permet au lecteur de s'identifier à Don Quichotte? Ou encore vers une lecture symbolique de cette dernière qui opposerait le noble chevalier de l'idéal au paysan de la matière? En réalité, on est encore très loin de ce type d'interprétation qui trouveront leur point d'aboutissement chez les romantiques allemands. Et ce, ne serait-ce que du simple fait de l'absence complète de Desengaño chez les deux continuateurs français. Don Quichotte meurt dans l'erreur de façon triviale et reste jusqu'à la fin victime des illusions. Tandis que Sancho ne semble avoir tiré aucun enseignement véritable du temps passé aux côtés de son maître. Pour cette dernière raison, il est également très difficile de lire l'œuvre comme un roman d'apprentissage avant la lettre. Cependant, on sait que ce Don Quichotte français, en 6 volumes, a été extrêmement lu en Allemagne tout au long du XVIIIe siècle, dans la mesure où la traduction allemande de référence pendant cette période a été tirée de 7 versions françaises et non du texte original castillan. La question de l'articulation entre ce cycle quichotesque et la lecture romantique mériterait par conséquent d'être approfondie. Enfin, à un tout autre niveau, et en guise d'ouverture, sans doute ne faut-il pas exagérer l'existence d'un lien entre, d'une part, le déclassement relatif de l'Espagne sous Charles II, et de l'autre, la façon très libre, voire un peu désinvolte, dont Filliau et Chasles s'emparent d'un texte emblématique de la littérature espagnole. Il y a des motivations littéraires et surtout commerciales qui interviennent dans ce processus. Mais force est tout de même de constater que l'apparition de 2 continuateurs français écrivant à la charnière entre le règne du dernier des Habsbourg espagnols et celui du premier des Bourbons d'Espagne est merveilleusement en adéquation avec la volonté ou le rêve de la France d'assurer en Europe une certaine relève. Merci. Merci.